Imaginez un instant. On est dans le sud de la Martinique, à Sainte-Anne. Il y a ces eaux turquoises qui donnent juste envie de plonger. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais pas n'importe comment. Nos sources proviennent d'un centre de plongée un peu particulier qui s'appelle Natiabel. Et rien que le nom, déjà, ça dit tout. Natiabel, en créole, ça veut dire « la nature est belle ». C'est simple, c'est direct. Et ça résume, en fait, toute leur philosophie. Notre but, à partir des documents qu'on a, c'est de décortiquer comment une activité touristique peut devenir un vrai projet de conservation.
Oui, parce qu'en lisant ça, on se rend compte tout de suite que on n'est pas dans la brochure de vacances classique, pas du tout. Ce qu'on analyse là, c'est un modèle d'entreprise où l'écologie, c'est pas juste du marketing, c'est vraiment le cœur du réacteur. On va voir comment ils réussissent à allier tourisme, éducation, la communauté sur place et même la science.
Un écosystème, le mot est parfait. Alors commençons par ça. Par l'identité du lieu. Les sources décrivent Natiabel comme un club, cosy, chaleureux, vraiment à taille humaine. On sent qu'on est loin des grosses usines à touristes. L'équipe, ce sont des moniteurs et monitrices diplômés d'État, E3, E4 donc, le plus haut niveau. Et on les décrit comme des passionnés qui parlent plusieurs langues en plus.
Et c'est cette expertise qui leur permet d'aller plus loin. Les documents les appellent un hub d'activités de pleine nature. Le mot hub, il est super important.
Ah oui.
Oui, ça veut dire que la plongée, en fait, c'est juste la porte d'entrée. Ils proposent aussi des balades en kayak, dans la mangrove, des randos. En fait, ils ne vendent pas une activité, ils vendent une immersion complète dans la nature martiniquaise.
Sous l'eau et sur terre.
Exactement. L'idée, c'est de faire comprendre que tout est connecté. La santé de la mangrove, elle a un impact direct sur la santé du récif.
C'est d'une vision bien plus large. Et ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent à faire ça tout en ayant des clients hyper satisfaits. J'ai noté un détail amusant dans la source. Ils disent que les avis sur TripAdvisor sont une vraie source de motivation pour l'équipe.
On pourrait croire que c'est un détail, mais non. C'est même très révélateur. Ça montre qu'ils arrivent à faire passer leur message écologique très fort, sans jamais être, comment dire, moralisateur ou élitiste.
D'accord.
Ils rendent la conservation accessible et même désirable.
Et cette convivialité, cette joie de vivre, comme ils disent, c'est un peu le point de départ d'une philosophie plus profonde. Les documents insistent beaucoup sur une idée, le plongeur est aux premières loges.
C'est ça. C'est le cœur du système. Être aux premières loges, ça veut dire voir la beauté, bien sûr, mais aussi la fragilité. Et c'est là que le déclic se fait. Natiabel ne traite pas ses clients comme des consommateurs. Il les transforme en témoins. On ne vient pas consommer l'océan, on vient pour le comprendre.
Donc chaque plongée, c'est un peu une leçon de choses. On voit les beaux coraux, mais on voit aussi ceux qui sont abîmés, ceux qui blanchissent.
Exactement, et ça crée un sentiment de responsabilité. Ce n'est plus l'océan en général, c'est ce récif que je viens de voir là, de mes propres yeux. Et psychologiquement, c'est très très puissant. L'émerveillement devient le moteur de l'action.
C'est une super philosophie. Mais est-ce que ça se traduit en action concrète ? Parce que les belles paroles, on connaît.
Justement, et c'est là que ça devient passionnant. On peut commencer par leur travail avec la communauté locale, et surtout les jeunes. C'est une vision à long terme.
D'accord.
Depuis 2003, ils forment les élèves de l'école de pêche du coin. Ils leur offrent des baptêmes gratuits. L'idée, c'est comment on peut protéger un trésor si les gens qui vivent à côté ne le connaissent même pas.
Ils créent les futurs gardiens de l'océan, en quelque sorte.
Voilà. Des jeunes qui auront un lien personnel avec ce monde sous-marin.
Et avec les professionnels, les pêcheurs. Les sources parlent de collaboration, ce qui est assez rare. Il y a souvent des tensions.
C'est un point absolument crucial. Au lieu d'être dans l'opposition, ils sont dans la coopération. Très concrètement, ils aident les pêcheurs à récupérer les filets ou les casiers perdus.
La fameuse pêche fantôme ?
Oui, qui continue de tuer des animaux pendant des années. Et en échange, ils ont discuté pour créer les sites de plongée en dehors des zones de pêche. C'est juste. Du bon sens et du respect mutuel.
Ils ne sont donc pas seuls, ils tissent une toile avec les locaux et avec des assos scientifiques, mais les documents parlent aussi d'innovation technique, je pense à leur mouillage propre.
Ah oui, là, on touche au concret de la protection. Il faut imaginer le problème. Un bateau, pour s'arrêter, il jette une ancre.
Bien sûr.
Et cette ancre, avec sa chaîne, quand elle bouge au fond, elle laboure tout. Elle arrache les herbiers, elle pulvérise des coraux qui ont mis des décennies, voire des siècles à grandir.
C'est une destruction invisible, en fait.
Complètement. La solution qu'ils ont mise en place, ce sont des vis éco. Au lieu de jeter l'ancre, ils ont installé une sorte de grande vis dans le fond marin. C'est un point d'attache fixe. Le bateau s'amarre à une bouée et plus rien ne touche le fond.
Rien du tout.
C'est une protection absolue.
J'imagine que ça doit coûter cher. La source dit bien que c'est un choix délibéré et coûteux.
C'est un investissement énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur projet a été soutenu par des fonds publics français et européens. France Relance, l'Office français de la biodiversité, ça valide leur démarche, ça montre que c'est un modèle à suivre.
Et j'ai trouvé une anecdote géniale pour le financement. Pour aider à payer ces fameuses vis, ils vendent au club un livre de comptes créole.
Non, c'est vrai.
Si, il s'appelle « Ti mensonge » et tous les bénéfices vont directement à l'achat de ces mouillages. C'est un exemple parfait d'économie circulaire qui lie la culture, les touristes et la conservation.
C'est une approche à 360 degrés, vraiment. Et cette mentalité proactive, on la retrouve aussi avec la faune. L'exemple le plus dingue, c'est le poisson-lion.
Ah, l'espèce invasive, le fléau des Caraïbes.
Un vrai cauchemar écologique. Il vient du Pacifique, il n'a pas de prédateurs ici, il mange tout. Alors Natilla Bell a une autorisation pour le chasser. Mais ce qu'ils font après est fascinant.
C'est-à-dire ?
Au lieu de juste le retirer, ils utilisent le poisson mort pour éduquer la faune locale. Ils le présentent à des mérous, à des murènes, pour leur apprendre à le reconnaître comme une proie.
Attendez, éduquer d'autres poissons ? Ça paraît fou. Est-ce que ça marche ?
Ben, c'est une démarche expérimentale, mais qui s'appuie sur des observations. L'idée, c'est de donner un coup de pouce à la nature pour qu'elle recrée un équilibre. C'est de l'interventionnisme écologique intelligent. Ils sont actifs, pas juste passifs.
Ce qui nous amène à la formation. Parce que pour faire tout ça, il faut des plongeurs compétents.
C'est la base de tout. Et c'est là que leur affiliation aux grandes organisations mondiales, PADI, SSI, FFSM, prend tout son sens. Ça garantit un standard de qualité. Mais au-delà du diplôme, les documents insistent sur une compétence clé qu'ils enseignent de manière quasi obsessionnelle.
Laquelle ?
La maîtrise de la stabilisation.
Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais plongé, ça veut dire quoi la stabilisation ?
C'est l'art de flotter parfaitement entre deux eaux, sans bouger, comme un astronaute en apesanteur. Sans jamais toucher le fond avec les genoux, sans jamais frôler un corail avec ses palmes, c'est la compétence numéro un du plongeur ninja éco.
Le plongeur ninja éco, j'adore. D'ailleurs, la source utilise une image qui marque. Éviter le genou corail destructeur. On imagine tout de suite le plongeur un peu pâteau qui détruit des décennies de croissance en un seul geste.
Exactement. Et cette maîtrise, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est ce qui permet au plongeur de devenir un acteur.
Ah oui.
Un plongeur qui est parfaitement stable, il peut participer à des programmes de sciences participatives, comme Reef Check pour compter les poissons, et il peut ramasser un déchet sans tout soulever autour de lui, il peut observer la ponte des coraux sans rien déranger, la technique est au service de l'écologie.
Donc si on résume, Natilla Bell, d'après ce qu'on a lu, c'est bien plus qu'un centre de plongée, c'est un vrai projet intégré. Ça fusionne le tourisme, l'éducation, l'action locale, la science. C'est la preuve qu'une boîte commerciale peut être une force positive pour son environnement.
Absolument. Et ça nous amène à la réflexion finale, je trouve, en refermant ces documents. On vient de décrire un modèle où une petite entreprise, très agile, très locale, collabore super bien avec tout son écosystème. Les pêcheurs, les scientifiques, les institutions. Et ça pose une question plus large.
Laquelle ?
À une époque où on oppose tout le temps économie et écologie, est-ce que le modèle de Natilla Bell ne nous montre pas que ces petites entreprises qui sont vraiment ancrées dans leur territoire sont peut-être finalement les mieux placées pour devenir les gardiennes les plus efficaces de nos écosystèmes ?